السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد والأصحاب أجمعين، أما بعد. Dans le dernier درس on avait pris trois أحاديث. Le hadith de Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam... Non, ça c'était bien avant, je me trompe. On a pris le hadith de Abu Dhar, le deuxième. Dans lequel les sahaba, wa alaykoum salam, qui avaient moins de moyens, se plaignaient auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui avaient plus d'argent qu'eux, faisaient plus de bien qu'eux. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appris plusieurs façons de faire sadaqa. Autre que par l'argent, pour celui qui ne peut pas le faire. Ensuite, il y a le hadith de Nawas Musam'an, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Attends, j'en ai sauté un là. Ah oui, il y a le hadith d'Abu Huraira avant, sur la sadaqa que l'on fait chaque jour par rapport à nos articulations qui sont de 360, avec le tasbih, avec le tahlil ou le tahmid, et le fait d'aider les conciliants entre les gens, et les khutuwat qu'on fait pour aller au masjid. Et la bonne parole, tout cela sont des sadaqat. Et après, on a pris le hadith de Nawas, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam explique la différence qu'il y a entre la bonté et le mal, parce qu'on ne connaît pas, on n'a pas de preuves scientifiques dessus, que le bien, c'est ce qui apaise le cœur, et le mal, c'est ce dont on n'aimerait pas que les gens sachent. Et également, même si les gens nous disent de le faire, on ne le fait pas. On ne s'en sent pas apaisé de le faire. Et ça, on expliquait, c'est dans le cas où tu ne connais pas de dalil. Mais quand tu as un dalil sur une chose, là, c'est pas pareil. نأخذ اليوم حديثا واحدا. On va prendre un seul hadith aujourd'hui, qui est le 28e. يقول عن نبي نجيج العرباد بن السارية رضي الله عنه قال وعاثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بالتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين غدوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي. Dans ce hadith, le Nabi, ou plutôt Nujayh al-Irbad, il dit qu'il a entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les exhorter un jour, une exhortation extrêmement éloquente qui faisait frémir les cœurs et qui faisait verser les larmes. Et ils ont dit, au message d'Allah, on dirait une exhortation d'adieu. Ils ont dit alors, recommande-nous, fais-nous une recommandation, comme pour un testament ou quelque chose. Il a dit, je vous exhorte, je vous enjoins à la crainte d'Allah Azzawajal, et de l'écoute et de l'obéissance, même si c'était un serviteur qui était à votre commandement. Car certes, parmi vous, ceux qui vivront, verront beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna du khulafa, bien guidée et droit, et mordez-y avec les molaires, et prenez garde aux choses nouvelles, car toute innovation est égarement. Donc là, c'est un hadith qui est azim, et qui est principalement basé sur l'enseignement du manhaj, la voie à suivre, la méthodologie à suivre en religion, pour ne pas se perdre. Chose sur laquelle trop de gens ne donnent pas d'importance, et sont laxistes. Et beaucoup de gens dans ce genre de abweb se sont perdus également à cause de mauvaise compréhension. Donc là, Al-Irbad, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a fait une mu'idha, balira. Balira, ça vient du mot balara en arabe qui veut dire éloquence. Et l'éloquence en arabe, ce n'est pas la même qu'en français. c'est de faire parvenir ta parole avec le moins de paroles possible et avec le plus de sens possible. Il ne faut pas forcément employer des grands mots, mais des mots pleins de sens qui, en un seul mot, peuvent regrouper plusieurs phrases et avoir plusieurs significations. Peu de paroles pour beaucoup de sens. Wa ablagh al-kalam wa kalamullah. La parole la plus éloquente, c'est d'Allah Azawajal dans son Coran. Vu tout ce que regroupe ce livre, avec en réalité peu de mots. Donc il dit que cette mou'iza a fait frémir leur cœur et a fait couler leurs larmes. Donc ils se sont dit, peut-être que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous quitter, va partir. C'est pour ça qu'ils l'ont dit, exhorte-nous. Exhorte-nous. Et de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a enjoints à ce qu'enjoignent les savants à chaque fois qu'on leur pose une question, qu'on leur demande une nasiha. Il a dit, usikum bittaqwallah. Je vous exhorte à la crainte d'Allah. وقد ذكرنا أن التقوى هو هي الوقاية بين العبد وبين غضب الله. التقوى c'est ce qu'on met comme protection entre nous et la colère d'Allah عز وجل. Donc c'est une crainte, des causes de crainte pour se protéger de la colère d'Allah عز وجل. Et souvent, comme on le répète, le mot est traduit par piété, le mot pieux ne convient pas. Le mot taqi, c'est le craintif, celui qui se protège. Il se protège par l'obéissance. Il obéit à Allah Azawajal. Il se protège en délaissant les interdits. Allah wa al-muttaqi. La taqwa, c'est ça. Tout comme il se protège son corps du froid et de la chaleur, tout comme il protège ses pieds de ce qu'il y a sur terre par des chaussures, tout comme il se protège lui-même quand il prend son véhicule avec la ceinture de sécurité ou lorsqu'il prend les deux roues avec le casque, tout ce qui s'ensuit. Ça vient de wikaya qui veut dire protection. La taqwa, c'est la protection qui, elle, est lié à la religion. Et celle-ci, elle est prioritaire sur toutes les autres. Bien que la religion, également, incite à se protéger, à protéger nos corps, à faire attention à notre santé. Mais, ce qu'il y a de plus important, c'est le cœur, donc le dîn. Et cette wasiya, قد ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Dans le sens où Allah dit, nous avons certes enjoint à vous, c'est-à-dire la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et à ceux qui étaient avant vous, de craindre Allah. Donc c'est une chose qui n'est pas nouvelle. Et souvent tu verras, lorsque tu auras les ulama, comme on disait tout à l'heure, et qu'on leur demande une nasiha, ils disaient, Ansahukum bittaqwallah, tout le temps, car c'est ce qui est le plus important. Et dans beaucoup de versets, Allah Azawajal le cite. D'ailleurs, quand vous savez, quand on prend Khutbat al-Hajjah, avant une Khutba, avant un événement ou autre, on cite trois versets, et dans ces trois versets-là, cela incite à la taqwa. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit. Et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Ya ayyuhan nas ittaqoo rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur, celui qui vous a créé à partir d'une seule et même âme et a créé à partir d'elle son épouse. Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Vous qui avez cru, craignez Allah et parlez correctement afin qu'il vous réforme vos actions et vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes réussi une victoire éclatante. Donc la taqwa dans le Coran est citée avec beaucoup de fawaïd derrière. Être pieux, non, d'habitude. Être craintif, être muttaqi, cela préserve de bien des maux dans ce bas monde. Et il n'y a rien de rabaissant en cela, bien au contraire. Comme a dit Ta'ala, « Inna karmakum indallah atqaakum » que le plus noble auprès d'Allah parmi vous, c'est le plus craintif. C'est le plus craintif. Mais d'une vraie crainte. Une vraie peur. Pas la peur... la peur ostentatoire de ces gens qui passent leur temps à désobéir à Allah Azzawajal, du matin au soir, peut-être même en dormant, Allah Alam. Et lorsque tu les exhortes, quand tu veux leur parler, dis-moi, je n'ai peur que de Dieu. Et cette phrase-là, tu n'entendras que de la bouche des voyous. En fait, ils vont comprendre, j'ai peur de rien, quoi. Je suis courageux, j'en ai rien à faire. Il n'y a que qui parlent comme ça, je n'ai peur que de Dieu. Quand tu as peur de quelque chose, tu l'évites. D'accord ? Quelqu'un qui a peur, par exemple, de son père, il ne désobéit pas. Très peu. D'accord ? Quand quelqu'un a peur, par exemple, de se faire envoyer à son travail, eh ben, tu vois qu'il est un employé correct. Et ainsi de suite. Donc, comment tu dis « j'ai peur d'Allah », comme tu le prétends, et tu es parmi les plus grands des criminels sur Terre ? Ça, personne ne va te croire. Normalement, cette crainte devait t'emmener justement à lâcher tous les délits que tu commets. Donc cette parole-là, c'est un pur mensonge. Je n'ai peur que de Dieu, comme ils le disent. Vous voyez ? Par contre, le jour de la police qui arrive, tu cours vite. Donc, ta peur, elle n'est pas que là où tu le dis. Il y a une arme. Pour le jour du jugement, lorsque tu t'es fait attraper, tu es convoqué, et tu sais que tu es coupable. Crois-moi bien que t'es pas à l'aise. Donc t'as peur de quoi à ce moment-là ? T'as peur du jugement qui va te tomber dessus, et de la peine que tu encours. Et ainsi de suite. Donc la vraie crainte, elle t'amène à délaisser justement les choses qui sont nuisibles et mauvaises. Et t'incite à rester droit sur la religion. C'est inévitable. قَوْلُهُ أُسْيِكُمْ بِسَّمْ وَالطَّاعَ وَإِنْ تَأْمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ. Je vous recommande l'écoute et l'obéissance, même si vous étiez sous l'autorité d'un serviteur, d'un esclave. Il dit chez Al-Abbad, وَيَا وَصِيَّةٌ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَ لِيُولَاتِ الْأُمُورِ فِي غَيْلِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ الْأَمِيرَ عَبْدًا. Donc là, c'est une exhortation à l'obéissance. L'écoute et l'obéissance à celui qui aura le pouvoir, autorité sur nous. Les musulmans. Important comme détail, les musulmans. Et de l'obéir dans l'obéissance d'Allah. Pas dans l'absolu, mais d'obéir dans ce que Allah Azzawajal nous a permis de faire. D'accord ? Ça, c'est le droit du gouverneur. Il a dit même si c'était un serviteur, un esclave. وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءَ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ وَيُحْمَلْ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ فِي مَعْنَاهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ فِي اللُّزُومِ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْعَبْدِ إِنْ كَانَ خَلِيفَةً. Donc il a dit pourtant, dans le hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple, un esclave. Alors que les ulamas sont unanimes pour dire que l'esclave ne peut pas avoir autorité. Il ne peut pas devenir un gouverneur, parce que lui-même, il est sous l'obéissance de son maître. Mais il a dit, en fait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné ça comme exemple pour montrer, pour insister, pour montrer l'importance de l'obéissance. Il t'a montré peut-être le statut social le plus bas pour le droit, en ce moment, à donner le plus haut, qui est l'obéissance à une créature, mais dans quelles conditions ? Que ce soit dans le ma'rouf, dans le convenable. Et il dit également, ça peut être interprété comme le fait que cette personne qui a pris le pouvoir, elle était un esclave avant, auparavant. Donc les gens l'ont connu comme étant l'abd. Mais par la suite, il a été libéré ou quoi, il a pris le pouvoir. Vous voyez ? Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut comprendre de ce paragraphe, c'est qu'il nous est obligatoire d'obéir au gouverneur des musulmans dans le ma'ruf, comme on dit Ta'ala. وَاتِعُوا اللَّهَ وَاتِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Obéissez à Allah et obéissez à son messager et au détenteur du pouvoir parmi vous. Et ce verset est interprété comme étant les gouverneurs musulmans ainsi que les savants. Les savants, ils ont l'autorité du fait, l'autorité religieuse dans les fatwas qu'ils émettent ou autres, tant que leur parole, bien sûr, est en concordance avec la religion. Il faut une fatwa, on obéit. Il faut un conseil, on s'y tient autant que possible. D'accord ? Et le gouverneur, lui, c'est l'autorité pour tenir le pays. Il est indispensable d'avoir un gouverneur. Aussi mauvais soit-il. Un pays sans gouverneur, ça va devenir un pays de paria. Ça va être l'anarchie, ça va être la jungle. Il faut un gouverneur, même s'il est mauvais, même s'il est corrompu, même s'il est ce que tu veux. Même un pays de kufr, il faut un gouverneur. Il n'y aura pas de gouverneur, j'imagine même pas la guerre civile que tu auras. Donc sa présence, elle est indispensable pour tenir justement, mettre en place ce qui amène à préserver les vies, à préserver les biens. À la base, c'est les cinq darurat qu'on a appris dans la religion. Qui est-ce qui nous les rappelle? Ad-darurat al-khams, les cinq objectifs principaux pour lesquels la religion est venue et dans lesquels on trouve justement des sentences. Il y en a cinq. On les a cités déjà. Man yathkur. Si tu veux, tu vas jusqu'au bout. Tu t'arrêtes pas à mi-chemin ou tu vas jusqu'au bout.
Tu les as, quoi.
Qui a les cinq? Tu penses? Ils sont cinq. Cinq seulement. Vas-y.
Les biens.
Les biens. Même les biens de Koufar. Même leurs biens, eux, ils ont des droits.
Éviter que les femmes et les hommes aient des rapports.
Non, on veut l'objectif. On veut pas le faire. Non, tu l'as dit juste avant.
L'honneur.
Et on a dit soit l'honneur, soit... Souvent, les ulama, ils en donnent deux au même endroit. Ça, c'est plus pour toi, ça. Soit l'honneur, soit la généalogie. D'où le fait d'interdire la fornication. Par exemple, on en a deux, il en manque trois. Les biens, l'honneur. Ils sont faciles, les autres, en vrai. Réfléchis à quel moment il y a une sentence en islam corporelle. Pour quelle raison? C'est les biens, ça. Tu l'as cité.
Ah, quand tu t'apostasies.
Donc la religion. L'âme, la croyance. Il en manque deux. À quel moment, on a pris le hadith, à quel moment un musulman il peut être tué?
Ah, la vengeance.
Quelle vengeance? La vengeance de quoi? Donc, l'islam est venu pour protéger quoi?
Les vies.
La vie, barakallahu fik. Il en manque un. Non, c'était dans l'honneur et dans la généalogie. T'es pas obligé de te marier en islam.
Ouais, c'est bien.
Oui, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire.
On donnait le convenable d'interdire le blâme.
Non, ça c'est général. Ça en ont tous. C'est un moyen qui permet d'arriver à ces objectifs-là. Il y en a un, il en manque un.
La droiture.
Non. Celui-là qui a validé, celui-là c'est une conséquence de tous les cinq réunis, tu seras droit, Inch'Allah. Je t'ai vu.
Non, je comprends rien.
Moi j'ai compris, moi, ce qu'il t'a dit. T'as pas compris ce qu'il t'a dit? Sans le voir, j'ai vu le geste qu'il a fait.
Subhanallah. Elle a dit, ça y est. L'ivresse.
Non.
Ça, c'est un moyen. C'est quoi le but d'empêcher quoi?
Ah,
d'empêcher quoi? L'ivresse?
Non.
D'empêcher quoi, l'ivresse? C'est quoi le geste de l'ivresse?
Quand t'es inconscient. Quand t'es en état secondaire. Oh, bah, comment on appelle ça?
Je veux que ce soit lui qui le dise. Ça y est, tu l'as presque eu. L'ivresse, ça t'amène à quoi, l'ivresse? Les drogues, l'alcool, ça t'amène à quoi?
La transgression.
Non. C'est pas ça le mot qu'on veut. S'enivrer et prendre les drogues, ça résulte à quoi? Qu'est-ce que ça amène? C'est quoi les conséquences? Sur la personne, quand il a bu, il est ivre. Qu'est-ce qui se passe?
Il n'est pas lui-même. En gros, il n'est pas...
Qu'est-ce qu'il a perdu? Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu quelque chose. C'est quoi qu'il a perdu? Quand il se drogue, qu'est-ce qu'il a perdu?
Facile.
Ah oui, c'est bon, abuse pas.
C'est facile, là. Attends, t'as tout donné.
T'as l'impression, là.
On t'a tout donné. On t'a montré la porte, on a mis la clé, on a tourné, t'as juste à...
Il perd quoi? Il perd quelque chose.
Oui. Quelqu'un qui a bu, qui est ivre, qu'est-ce qu'il a perdu?
Quoi, les
ambitions? Là. Ah, là, t'es parti loin, là. Oui, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'on veut. Bon, on passe à un autre. Tu vas voir que tu vas dire oui, c'était tellement évident, mais je sais pas pourquoi tu veux pas le dire. T'as dit quoi? La raison. La raison. Quand tu es bu, tu es ivre, tu as perdu quoi? La raison. Quand tu t'es drogué, Et que, comme ils disent, t'as perdu quoi ? La raison. Donc la religion est venue pour protéger la raison également. Parce que quand tu perds la raison, bah, tu fais ce que tu fais, tu fais n'importe quoi. Et tu peux tomber dans tous les autres. Raconter l'histoire d'un homme. Je crois que c'est dans Talbis et Iblis, je ne me rappelle plus dans quel livre. Un homme à qui on lui a dit, soit tu forniques avec une femme, soit tu tues, ou soit tu bois. Un verre. Je crois que c'était ça devait être un moine, ou je ne sais plus, c'était qui. Apparemment, l'histoire, elle est vraie. Et il s'est dit, ben, boire le verre, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a de moins grave parmi les trois. Tu vois? Et il a bu, il a perdu la raison, il a tué, il a forniqué et il a tué après. Il a tout fait, en fait. Parce qu'on voit ce qu'il a perdu la raison à ce moment-là. Donc, l'alcool a été nommé Umm al-Khaba'ith. La mère des turpitudes. Celui qui a bu, tout le haram, il va le faire. Tout ce qu'il a dit peut te le faire. Il peut faire du Sheikh Akbar, il peut faire Zina, même c'est Mohammed Harim. Il peut tuer, il peut frapper, il peut voler. Les cinq autres objectifs, celui qui a bu, il va les enfreindre. S'il a un stade trop éloigné. Non. Donc pour revenir au Shahid, c'est que le gouverneur, par sa présence, il est censé faire en sorte que ces points-là soient respectés. Aujourd'hui, certains le sont, d'autres ne le sont pas. Dans beaucoup de pays d'islam, malheureusement. D'accord ? Mais celui de la vie, généralement des biens, il est respecté, même chez les koufars. C'est un truc qui est essentiel. Mettre la sécurité dans un pays, ce genre de choses. Ah, mais ici, par exemple, la généalogie, elle n'est pas respectée. Et la raison, elle n'est pas respectée. Et la religion non plus, elle n'est pas respectée. Mais le reste, la vie et les biens, ils sont respectés, on va dire, pas islamiquement parlant. Mais les lois sont là pour que tu ne tues pas, pour que tu n'uses pas autrui, tu ne voles pas, ce genre de choses. Après les sentences, c'est autre chose. Donc le gouverneur, il faut lui obéir. Et le gouverneur musulman, fil ma'arouf. Et c'est un bœuf dans lequel sont égarés, comme vous savez, les khawarij. D'accord ? Les khawarij, qui eux sortent contre le gouverneur. Et qui rendent mécréants les musulmines pour avoir commis des péchés. قال وقوله فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا car parmi vous ceux qui vont vivre c'est-à-dire après lui après le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vont avoir beaucoup de divergences et c'est le cas eux ils en ont vu à leur époque mais que dire de nous d'accord eux ils en ont vu à leur époque mais que dire de nous. Donc c'est quoi la solution face à toutes ces divergences qui existent ? Il a dit « Fa'alikum bi sunnati wa sunnatul khalafa rachid al-mahdihin wa ruzzu alayha bin nawajiz » Il a dit « Accrochez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés et mordez-y avec les molaires. » Donc c'est pour cela que s'accrocher à la sunna, c'est obligatoire. Il n'y a pas de Coran qui sera compris sans la sunna. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. Oh non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas mis comme juge dans leur litige, puis qu'ils s'y résignent et qu'ils ne trouvent en cela aucune gêne. Donc ce verset vient pour montrer que à l'époque, c'était du vivant du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Les sahabas devaient revenir vers lui en cas de désaccord, de divergence. Et après sa mort, c'est sa sunna qui existe toujours. Elle est là. Donc on doit revenir à la sunna. Au Coran et à la sunna. C'est obligatoire. Et les gens qui rejettent la sunna, ce ne sont pas des musulmans. L'autre jour, on en a parlé de la secte qui se disent coranistes. D'accord ? Ces gens-là ne sont pas des musulmans. Car ils ont rejeté la révélation. Et le vrai coraniste, comme ils se disent coraniste, il suit la sunna, parce que le Coran t'appelle à suivre la sunna. Donc ce sont des prétentions mensongères. Comme ceux tout à l'heure qui disent « j'ai peur que de Dieu ». Pareil. C'est qu'une langue qui bouge, mais voilà. Que des prétentions. Pour s'affilier à ceux dont ils ne font pas partie, ceux dont ils sont étrangers. Donc, maintenant, c'est pour ça qu'on te dit que tu es un sunni. Par rapport à la sunna du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, « Wal khulafa rashid al-mahdiyin » Les quatre califes bien guidés qui sont ses compagnons, qui étaient les meilleurs des hommes. Donc cela revient à qui ? Au salaf. D'accord ? Les salaf de base sont les compagnons. Et puis, ceux d'après, puis ceux d'après. Ces trois générations-là, elles ont une tazkiya du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle est khayrun nas, karni, les meilleurs des gens sont mon siècle à moi. C'est-à-dire lui et ses compagnons. Thumma lazin yalounahum. Puis ceux qui viennent après sont les tabi'in. Thumma lazin yalounahum. Puis ceux d'après les tabi'in sont adba' tabi'in. Ce sont les trois meilleures générations. Dans l'absolu. Et ces gens-là, on les appelle salaf. En arabe, ça veut dire les précédents, prédécesseurs. D'accord ? Donc quand tu te dis sunni salafi, tu t'affilies à ces gens-là. Ce n'est pas une nomination qui est innovée, il n'y a rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens, tout le monde te dit « je suis musulman ». Mais concrètement, son islam, sa compréhension, elle est où ? D'accord ? Et plein de gens vont te dire, moi je suis parti de El Sunnati wal Jamaa, les gens de la Sunna et du groupe. Et quand tu regardes bien, c'est pas ça. Donc il faut encore un descriptif encore plus précis. Que tu comprends le Coran et la Sunna avec la compréhension des Sahaba, des meilleures générations. C'est ça, Salafi. D'accord ? Si tu n'as pas besoin de le dire, ne le dis pas. Le Christ sous tous les toits, ou je sais quoi. Si tu as besoin de le dire, un jour il y a une discussion où tu veux préciser pourquoi les gens ne voient que tu n'es pas comme les autres ou quoi, tu dis moi je suis salafi. Mais de base, le salafi, tu le reconnais. C'est inévitable. Comment il parle, comment il est, tu sais qui c'est. Un général salafi, tu le reconnais. Après, tu en as certains, ça apparaît plus avec. En apparent, tu vas voir la pensée salafi, puis quand tu vas finalement voir des choses qui vont se passer, en fait, il n'est pas si salafi que ça, celui-là. Tu vas voir ses fréquentations. Tu vois les discours des fois qu'il va avoir de certaines... On regarde par exemple aujourd'hui là ce qui se passe avec la Palestine, il y a des gens, ben, on voit des gens qui se délient. Tu vois. Des paroles qui sont mauvaises, qui ne sont pas du ménage Salafi, comme critiquer les gouverneurs, critiquer les ulama. Tu vois. Ça, c'est pas la voix des salafis, ça. Abadan. On ne dit pas que les gens les rendent infaillibles et qu'on défend l'erreur. Il y a des paroles à ne pas nous prononcer et des choses, il faut se taire. Il y a des choses, on ne sait pas. Et ça, c'est l'esprit des Khawarij. Les gouverneurs, ils font quoi ? C'est quoi ça ? Les ulama, ils parlent pas et tout. Tu sais pas ce qu'ils font. Et ils sont pas obligés de te le montrer à toi. Et toi, en parlant comme ça, tu amènes à quoi ? À ce que les gens perdent leur confiance en leur gouverneur et leurs savants. Donc tu auras fait une division. Et si jamais tu t'éloignes des gouverneurs et des savants, t'es perdu. Tu te fais autodidacte et tu fais ta propre compréhension et ta propre voix, tu vas te perdre. Akid. Quand Ibn Abbas, radiallahu anhu, il est parti pour débattre avec les Khawarij, qui s'était séparé de Ali. Il est parti les voir pour les débattre avec eux. Il a dit, je viens là et je ne vois pas parmi vous aucun des sahaba. Ils étaient 2000 ou 4000. Il a dit, là, je regarde, je n'en vois aucun. Mais c'est qu'on connaît une épisode, je n'en vois aucun avec vous là. Pour dire, hé, vous êtes où là ? Et une fois, il y a des gens qui avaient appelé l'imam al-Bani, rahmallahu ta'ala, pour... Alors, je ne sais plus c'est quel cordillère, c'est en Algérie. Ouais, c'était un... Le Khulush al-Hukam, je crois, où il y avait un truc par rapport à, j'ai oublié le détail. Enfin bref, ils avaient appelé, ils ont dit on est tant et tant et tant et tant. Tu vois, un grand nombre. Et là, dit Mashallah, dans le sens, est-ce qu'il y avait avec vous un seul savant ? Et là, le celui qui est au bout du fil, silence. Il dit est-ce qu'il y a avec vous un savant ? Tu vois ? Il me semble qu'il a dit non. Ou le chien, il a dit si tu ne réponds pas, si tu n'en as pas. Il a dit s'il n'y a pas de savant avec vous, arrêtez tout de suite dans ce que vous faites. Dans le sens. S'il n'y a pas d'alim, reste à ta place. Tu n'as pas un alim, quand tu vas parler sur une mas'ala, tu n'as pas un alim de la sunna fiable qui t'a devancé, tais-toi. Surtout dans les sujets sensibles comme celui-ci, qu'on appelle un nawazil, qui sont les grands mots qui touchent la umma de façon générale. Tais-toi. Si un alim a parlé et qui t'a convaincu, allez, ta préposition, tu peux parler. Personne n'a rien dit, tais-toi. Adi nasiha. Parce que tu vas dire des paroles peut-être qui peuvent être graves en conséquence par la suite. Et t'as des gens qui ont trop de fougue, trop de hamas. Tu vois. Et même parmi des gens qui s'affilient au manège salafi, qui font des erreurs, qui sont des erreurs, qui à la base sont partis du manège, des gens de la dépassion comme les khawarij. Il veut dire non, je suis pas un khawarij. Oui, de toute façon, tu verras pas un khawarij, je suis un khawarij. Tu verras pas un khawarij, je suis un khawarij. Jamais, il va te dire. Non, regarde pas ce que tu dis pas, on regarde. Tes actes. On regarde tes fréquentations. On regarde tes références. On voit comment tu te comportes et là on saura qui on a affaire. Donc ce hadith t'apprend la voie à suivre. Quand tu verras les bid'ah, les khilafat et tout, accroche-toi à la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses califes bien guidés, qui sont les quatre de base. Et cette sunna revient également à celle des sahaba. Car en fait, ces quatre-là représentent les sahaba. Ils sont le sommet des sahaba. Ils sont les meilleurs des hommes. Bardel Anbiya, c'est eux les quatre meilleurs des hommes. Donc ce hadith t'enseigne à être salafi. Mais comme je vous le dis, être salafi, ça ne veut pas dire le Christ ou les Torah et la filia à toute chose. Il y a des gens qui mettent le mot salafi partout. Malheureusement, ils en font trop. D'accord ? Ils en font trop. Et cet excès, ça amène justement à la hizbiya. C'est une salafia qui, en réalité, laisse apparaître une hizbiya. Et t'as des gens, malheureusement, qui critiquent les salafis à cause de ce genre de maladresse chez beaucoup de frères. Qui se disent salafis, mais ils ont un côté tellement sectaire dans leur salafia qu'après, les autres qui n'aiment pas les salafis, ils les prennent eux pour en faire une généralité et tous nous casser. D'accord ? Donc c'est pour ça, même comme en islam, quand on fait des erreurs, le kafir qui n'aime pas l'islam va prendre ton erreur pour salir l'islam. Ben, les gens des passions, c'est pareil. Ils vont prendre l'erreur d'un frère, affilié à la salafia, pour dire, voilà, les salafis, c'est quoi ? On dit, non, c'est lui, c'est pas les salafis. Tu vois ? C'est lui, c'est pas les salafis. Là, j'ai entendu un autre jour, il n'y a pas longtemps, d'un homme qui appelait à aller faire des manifestations, je ne sais pas c'est qui, un imam, et dans lequel il se moque des salafis. En disant, ouais, ceux qui appellent de faire la hijra et qui sont sur une terrasse au McDo à manger un Big Mac et qui vont regarder une série de Netflix le soir. On dit, t'as un gros menteur. Et les salafis ne vont pas au McDo. Les muslims de base ne vont pas au McDo. Après, celui qui y va, ça le concerne lui. Et même il va au McDo, il va prendre un filet au fish, ou une glace, ou une boisson. Un Big Mac, c'est haram. Donc arrête de mentir. Tu vois. Ça, c'est grave, les gens. Ils n'ont pas d'équité. Tellement ils t'aiment pas qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi sur toi. Si tu parles, sois équitable au moins. Dis des choses qui existent. Là, tu te rends ridicule. Un salafi assis une terrasse à un McDo. Va le chercher, celui-là. Et si t'en trouves un, voilà, ben moi, je le verrai, je dirais, ce qu'il fait, c'est pas bien. Nous, le premier, on dirait le frère, ce qu'il a fait, c'est pas bien, on n'est pas d'accord avec lui. Comment t'as fait ça à tout le monde? Et regardez des séries sur Netflix. Pareil. Si des frères le font, c'est une erreur de leur part. Mais le salafi, il fait ça? Il n'a pas nommé salafi dans son audio. Mais on sait qui il vise. Parce qu'il vise les gens qui blâment les manifestations. Et ceux qui font cela, ce sont les salafi. Et ça, ça leur déplaît. Donc, pour pouvoir te discréditer, ils disent n'importe quoi sur toi. Et il a dit chez Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, si les gens pouvaient salir le prédicateur en disant même qu'il forniquait avec sa mère, il le ferait. Pour le salir et faire fuir les gens de toi. Et comme donc le mensonge, eh ben, ils y vont à fond. Mais dis même ton mensonge, il est stupide parce que ce que tu laisses tellement gros que quelqu'un qui connaît un minimum la salafia saura que ça ne tient pas debout ce que tu dis. Voilà. Celui qui va aller au McDo manger un Big Mac, je vais l'appeler Fasik. Même les Rouen, ils ne le font pas, ça. En général. Tu vois. C'est un... Quel que soit son ménage, c'est celui qui fait ça. Soit c'est un ignorant qui ne connaît pas, soit c'est un Fasik. Je ne veux pas dire les soufis vont au McDo manger un Big Mac. Je ne veux pas dire les tablirs, ils vont au McDo manger un Big Mac. Je ne veux pas dire les Ikhwan, ils vont au McDo manger un Big Mac. Je veux dire, lui, il a fait ça. Car de base, les muslims, ils font pas ça. Bon, malheureusement, Netflix, ça, c'est une réalité, beaucoup le font. Malheureusement. Mais ça, c'est pas propre. Tu vois, c'est propre à beaucoup de gens, tu vois, malheureusement. Salam alaikum. C'est propre à beaucoup de gens. Donc, il faut rester équitable. D'accord ? Et si... Un salafi fait une erreur, son erreur ne le concerne que lui. Vous voyez ? Salam alaikum. Faut pas le faire endosser à tout le monde. Parce que tu as la haine contre ces gens-là. Kama qala ta'ala, voilà, j'ai demandé à Koumisha Nakoumin, la ta'adilo. Irdilo, akarab le taqwa. Que la haine envers un peuple ne t'empêche pas d'être juste. Sois juste, sois le plus proche de la taqwa. Donc, ça revient à ce que vous dites tout à l'heure, la taqwa. Le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nous en rejoint à quoi ? La taqwa. Donc, quand tu parles comme ça, t'as de la taqwa ou t'as pas de taqwa ? T'en as pas. Ah, t'en as pas. Et tu es injuste. Et tu mens sur les gens. Et qui plus est, sur tes frères. Pour aller en plus faire derrière ça, une chose qui est interdite. Mal sur mal. Donc comprenez bien la chose. D'accord ? Comprenez bien la chose que là, le Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam a enseigné la voie à suivre. Il a dit « Wa raddu alayya bil nawajiz » mordisiez avec les molaires. Pourquoi les molaires? Parce que les molaires sont les dents les plus fortes de la bouche. Si tu mords avec tes dents de devant, là, on tire, ça va partir. Quand tu mords avec les molaires, il n'y a rien à faire. Ça accroche. Donc, Nabi Sallallahu Alaihi n'a pas dit accroche-toi avec tes mains. Accroche-toi avec tes molaires. D'accord? Il a dit accroche-toi-y jusqu'au bout. Et après, il a mis en garde contre les choses nouvelles en religion, qui s'appellent les bid'ah, les innovations. D'accord? Car l'innovation en religion est une chose qui amène à déformer cette religion. Tu la dénatures, tu la changes. Ce qui n'en fait pas partie, tu le mets dedans. Et il a rapporté une parole de l'imam Malik, que je la retrouve. À la base, ce qui a causé la division dans la Ummah, c'est la bid'ah, justement. C'est l'innovation. Comme il a dit Nabi Sallam, qui aura dit, cette communauté va se diviser en 73 sectes. Kulwa finar, plutôt groupe, afouen. Kulwa finar, il est wahid. Ils sont tous au feu à part un groupe. Il a dit, ma kuntu ana alayhi wa ashabi. C'est sur quoi moi j'étais, ainsi que mes compagnons. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça la salafia. C'est celle-ci. Maintenant, le fait de dire ce hadith, les gens pensent que toi tu dis, moi je suis sauvé. Non, j'ai pas dit, moi je suis sauvé. J'ai dit, le groupe et la voie que je suis, elle est bonne. Maintenant, moi, en tant qu'individu, je ne sais pas ce qui m'attend. Quand tu sors ce hadith aux gens de la bid'ah, wallah, ils deviennent fous. Ils disent, tu te prends pour qui, toi? Il dit, j'ai pas parlé de moi, j'ai parlé du groupe. Et ce groupe-là, c'est pas le fond vert pour celui qui veut y rentrer. N'importe, même le kafir. C'est pas des portes fermées. C'est les portes à fond vert, on t'y invite, justement. C'est toi qui fermes les portes. D'accord? Parce que les gens, ils croient que, ouais, quand on dit le groupe sauvé, ça veut dire, vous êtes sauvé, on est perdu. On dit, si t'es pas sur la sunna, ouais, tu vas te perdre. Mais on t'appelle justement sur la sunna. Celui-là, pourquoi tu la refuses? C'est que dans ton cœur, il y a un problème. Et ce problème va t'amener justement à être sous la menace du hadith, que tu peux te retrouver au feu. Et ainsi de suite. Donc ne pas confondre entre le groupe sauvé et l'individu sauvé. Ce sont deux choses différentes. C'est comme l'islam, tu peux dire musulman, croyant, d'accord? L'islam, c'est la vérité, c'est la religion de haq. Ça peut dire que toi, en tant que musulman, t'as garanti que t'es sauvé. Tu sais pas après la mort qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce que tu veux faire juste avant de mourir. On a pris le hadith d'Ibn Mas'ud, que l'homme peut faire les actes des gens du paradis, toute sa vie, avant de mourir, il fait les actes des gens du feu, il meurt, il va au feu. Et le contraire, t'as des gens, ils ont fait des actes des gens du feu toute leur vie, et avant de mourir, leur destin les a rattrapés, ils ont fait des actes des gens du paradis, ils sont rentrés au paradis. Donc nous, on parle pas de l'individu, on parle de la voie à suivre. Et ceux que tu verras qui agissent comme ça, c'est des gens qui ont de l'orgueil. Ils sont rabaissés par rapport à ça. Donc dis bien, ne confonds pas entre l'individu, entre le musulman et l'islam. Ne confonds pas entre le salafi et la salafia. D'accord? Beaucoup de prétentions. Ce qu'on regarde, on parle de la voie à suivre. Maintenant, chacun, il craint Allah Azzawajal, il demande pardon, il ne sait pas ce qu'il attend. Il ne sait pas ce qu'il attend. Comme Allah Ta'ala, « Wala tuzakou anfusakoum » et ne vous vantez pas vous-même, ne faites pas vos propres éloges. D'accord? Mais, il t'est permis, voire même il t'est nécessaire de clarifier quand il y a besoin. Que les gens sachent. Maintenant, clarifier ne veut pas dire que toi, tu t'es promis une chose. Donc, quelqu'un te dit, je suis croyant. Et c'est que tu peux dire, Inch'Allah. Alors, il y a Inch'Allah derrière. Il dit, ouais, tu crois que tu es au Jannah? Non, je ne t'ai pas dit, je suis au Jannah. Je suis là actuellement, là, je me considère parmi les croyants. Inch'Allah. Maintenant, où est-ce que je serai? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le croyant, la décision finale, c'est le Jannah. D'accord? Non. Après, si tu as des exemples de par rapport à la bida, une qui fait un sujet sensible à Khilaf, mais je ne vais pas le citer là pour ne pas rentrer dans un Nikrash, qui en réalité, à un autre stade, ne sera pas profitable. Donc là, ce hadith, il faut reconnaître quoi? Il appelle, dans le Khulasa, il va le dire, c'est mieux. Il dit, Mima Yustafa ibn al-Hadith, qui a profité de ce hadith. استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب. Qu'il est recommandé de faire des exhortations pour faire le rappel à certains moments, pas tout le temps. Il faut un temps pour tout. Si tu rappelles tout le temps aux gens, tu vas les saouler. Donc il faut le rappel quand il faut. D'accord? À juste dose. Et pour que cela justement ait un impact sur les cœurs des gens. Regarde par exemple le Jumu'ah, le khutbah de Jumu'ah. Elle a lieu qu'une fois dans la semaine. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit min fiqh al rajul an takun al khutbah qasira wa salat yutil al salah wa yaqtasir al khutbah. En réalité, le faqih, celui qui a une bonne compréhension, va faire une khutbah qui est courte, une salat qui sera plus longue. La salat sera longue et la khutbah sera courte. Quand tu vois un imam qui fait une khutbah super longue, c'est qu'il a pas beaucoup de fiqh. La khutbah est d'être courte, les gens ils ont des choses à faire. Mais toi, tu dois faire en sorte, dans ce laps de temps qui est court, de dire l'essentiel pour que ça ait un impact sur les gens. Et ça, c'est lui qui va lire, qui est éloquent. Avec peu de mots, il va dire beaucoup de choses. Il va dire beaucoup de choses. Bismillah ta'ala. Thaniyan, hirs al-sahaba, radiyallahu anhum, ala al-khayr, li talabihim al-wasiya minhum. Ce qui prouve que le sahaba étaient des gens qui étaient soucieux du bien, car ils ont demandé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'exhortation. C'est eux qui l'ont réclamé. C'est eux qui l'ont demandé. ثالثا أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل وهي طاعته وبامتثال أمره واجتناب نهيه. Et que la chose la plus importante, prioritaire, par laquelle on exhorte les gens, c'est la taqwa, la crainte d'Allah عز وجل. Et qu'est-ce que cela signifie? D'obéir à Allah عز وجل, à ses ordres, et d'éviter ce qu'il a interdit. C'est ça la taqwa. Car en faisant cela, tu t'épargnes des causes qui amènent à sa colère. رابعا أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لأولاة الأمور ولما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. Également parmi les choses importantes qu'il faut faire, c'est exhorter les gens à obéir au gouverneur des musulmans, parce que cela comporte comme bienfait mondain et également religieux pour les musulmans. Comme on l'a expliqué tout à l'heure, un pays est obligé d'être tenu par un gouverneur, sans quoi le pays va partir à la dérive. Il va partir, ça va être la jungle, la guerre civile. Donc même si le gouverneur il est injuste, tant qu'il est musulman, il a son droit qu'on doit lui rendre. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Il est injuste, on patiente. On patiente. Et la dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, is'alu lazi wa alaykum. Par rapport aux gouverneurs qui sont injustes, il l'a dit, rendez-leur leurs droits, et vous, demandez à Allah le vôtre, si vous ne le donnez pas. Mais il n'y a pas, tu sors, tu te rebelles, tu cries. D'accord? Ma afishad. Muslim, il patiente. Et il endure. Khamisan, al-mubalagha fil hiss ala al-luzum al-sam al-ta'a walau kana al-amir abda. Et regardez le côté, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait un exemple excessif en disant que même si c'était un esclave qui avait autorité sur toi, tu te l'obéir. Montrer l'importance de la chose. Sadisan, ikhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam an wujud al-ikhtilaf al-kathir fi ummatihi thumma husuluhu kama akhbara min da'il nubuwatihi. Et que cela montre la vérité de sa prophétie, car il a informé des divergences qu'il y aura dans sa communauté. Aujourd'hui, regarde comment on est divisé. Et la cause de cette division, c'est l'ignorance et l'innovation. Ou du moins les principales causes. Sabi'an, anna at-taliq as-salama 'inda al-ikhtilaf fi ad-din luzum sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam wa sunnat al-khulafa ar-rashidin. Et que maintenant, c'est quoi la cause pour se préserver justement de ces divergences et de cette dérive? C'est la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam et celle des khulafa, des califs bien guidés et qui plus est des compagnons. Thaminan, bayan fadl al-khulafa ar-rashidin wa hum Abu Bakr wa Omar wa Othman wa Ali radiyallahu anhum wa annahum rashidun mahdiyun. Et cela montre le mérite justement de ces quatre califs qui sont Abu Bakr, qui sont Omar, qui sont Othman et Ali et qui sont justement bien guidés et qui sont droits. تاسعا التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. De prendre garde à tout ce qui a été innové en religion et qui n'a pas de précédent. Des choses nouvelles, sans précédent. عاشرا أن البدع كلها ضلال فلا يكن شيء منها حسنة. Et que les innovations sont toutes un égarement, aussi grandes ou petites que soient-elles. Toutes elles sont un égarement, qu'il n'y a pas de bid'a qui soit bonne. Et les bid'a, tu en as celles qui te font sortir de la communauté, qui te rendent mécréant et celles qui te rendent innovateur. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il y en a qui sont graves, très très graves. Et d'autres qui sont moindres. Mais toute bid'a est grave de base, même si elle paraît moindre aux yeux. Hadi Ashar al-Jam Beina al-Tarhib wa Tarhib, Likolihi sallallahu alayhi wa sallam, Fa'alikum bis sunnah wa Tarhib wa Iyakum. Donc il faut joindre entre le fait d'encourager, d'inciter et le fait de mettre en garde. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a incité à écouter et à obéir. Il l'a mis en garde contre justement l'innovation. Donc les deux ont été réunis dans une même exhortation, allocution. ثاني عشر بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قوله عن موعظته كأنها موعظة مودعة عفوا فأوصينا. Et ça montre encore l'importance qu'il faille, lorsqu'il faut faire une wasiya, qui est l'exhortation, la recommandation, de la faire par rapport à la taqwa et à l'obéissance pour les gouverneurs muslimines, et de suivre la sunnah, de délaisser les innovations, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme ça qu'il a agi avec ses compagnons. Lorsque ils ont dit, on dirait que tu nous exhortes comme pour la dernière fois. Donc il a parlé de ces points-là. D'accord ? De ces points-là. Naam. طيب هذا الذي أخذنا اليوم من هذا الحديث نكتفي بهذا فسبحانك وبحمدك لا إله أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته